Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici Lucie Belle-Rose. Je suis accompagnée de mon co-animateur Yann Rompré. Salut Yann.
Allô, ça va bien?
Oui, toi?
Très, très bien.
Yann, tu as accepté d'être co-animateur du Radio Balado après de se connaître. Sais-tu pourquoi tu as accepté l'invitation de la Société québécoise de la déficience intellectuelle?
Mais moi, Lucie, en fait, pourquoi j'ai accepté, c'est parce que j'avais déjà rencontré la productrice. Elle avait été attachée de presse sur un de mes projets, la ménagerie de verre au théâtre de Prospero. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, je peux être honnête avec toi, Lucie?
Bien sûr.
T'as hésité un peu? T'étais pas sûr? La dernière fois, quand on a eu notre déjeuner, notre dîner causerie en pré-production, j'ai trouvé ça tellement humainement riche. Je trouvais qu'il y avait une belle énergie. On communiquait ensemble. C'était très, très pétillant, énergisant. Puis à la fin, je sais pas si tu te souviens, tu me dis « Hey, moi, je suis une fille câlinours. J'aime ça, serrer les gens. » Puis tu me serrais. Hey, moi, j'étais en deux rendez-vous. J'étais tellement pressée. Puis là, j'ai pris le temps. Puis c'est ça que j'ai envie avec toi, c'est prendre le temps d'apprendre à te connaître, puis d'apprendre à parler de la déficience intellectuelle, mais autrement, défaire des tabous, aller ailleurs. Puis tu sais, moi, je suis pas un spécialiste. C'est toi la spécialiste. Moi, je suis comme un gars curieux, puis j'ai envie de parler de sujets comme la parentalité, la sexualité, la scolarité. J'avais envie de briser les barrières, d'explorer, d'en apprendre à te connaître, toi, afin qu'on puisse se rapprocher, qu'il y ait une discussion entre humain et humain. Qu'il n'y ait plus de... Moi, je suis un neuro... Comment on dit ça?
Je ne sais pas, moi.
Un neurotypique?
Appelle ça comme tu veux, ne me dérange pas, moi.
OK, parfait. Je vais l'appeler comme je veux. Moi, je suis un neurotypique. Et toi, tu es une personne qui est née avec une déficience intellectuelle. C'est un peu ça, ce qu'on va apprendre. On va démystifier. Mmh. On va rentrer dans le vif du sujet. On va avoir des experts. On va avoir la chance d'avoir des experts avec nous dans le balado. Des gens qui vont venir nous aiguiller. Des gens qui vont venir nous confronter. Qui vont venir déstabiliser nos acquis, nos croyances. Et moi, je suis vraiment curieux. Pourquoi t'as accepté de co-animer ce balado-là?
Parce que je suis une fille qui est très curieuse, très fouine.
OK, fouine.
C'est que j'aime ça poser plein de questions aux gens qui m'entourent pour mieux les connaître.
Oui.
Et briser le mur qu'il y a entre la personne et moi. C'est pour ça que faire du balado avec toi, c'est un cadeau.
Oh wow, mais moi aussi, c'est vraiment un cadeau. Puis aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir à l'émission parce que au courant de notre série, il va y avoir différents intervenants qui vont venir en studio avec nous, qui vont venir éclairer, qui vont venir chambouler des idées préconçues, puis qui vont venir nous aider à tracer des voies. Et aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Maiwan Dubois, qui est la fondatrice et créatrice de la compagnie Maiwan et les orteils.
Maiwan. Bonjour.
Bonjour, Lucie.
Bienvenue parmi nous.
Merci.
J'étais très, très curieux. Je suis hyper emballé. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'avais envie d'entrée de jeu que tu nous parles de ta compagnie Maiwan et les orteils. D'où ça part, la jeunesse de ce gros projet?
Alors, Maiwan et les orteils, c'est une compagnie de gigue et de danse contemporaine qui travaille avec des artistes professionnels qui vivent avec une différence. Donc, c'est très large, le concept de différence. Donc, ici, on parle d'artistes professionnels. Je vais le répéter souvent parce que le calibre professionnel de mes interprètes, j'essaie de le mettre de l'avant le plus possible. Et on parle d'artistes qui vivent soit avec une déficience intellectuelle, soit avec un trouble du spectre de l'autisme ou différents syndromes associés. Syndrome de Williams, syndrome X fragile, dysphasie, dyspraxie, troubles d'apprentissage divers.
Est-ce que tu trouves ça difficile d'arriver à travailler avec les gens qui ont une différence versus les gens qui sont neurotypiques?
En fait, je trouve ça beaucoup plus facile de travailler avec des gens différents qu'avec des gens neurotypiques.
OK.
Parce que quand tu es face à un artiste ou un individu qui vit avec une différence, soit la déficience intellectuelle ou l'autisme, bien souvent, l'ego il est pas là, ou il y a un ego vraiment...
De côté
ou différent, on fait vraiment pas affaire avec les mêmes enjeux et on a tout de suite accès à l'être humain. On a tout de suite accès à...
Ils sont dans l'ouverture.
Dans l'ouverture, sont dans le moment présent, sont complètement authentiques. Donc, c'est beaucoup plus facile sur le plan humain tant que sur le plan artistique de travailler la création. Ça, pour moi, c'est clair que c'est plus facile.
Comment tu rentres en répétition? C'est quoi ton processus de travail?
Disons que ça s'est construit avec le temps, puis c'est des relations de confiance qui se sont construites entre moi et les interprètes, dans le sens où le premier interprète avec qui j'ai travaillé, il s'appelle Anthony Dolbecq.
Qui travaille professionnellement, il était dans le film de Gabriel,
exactement,
de Louis Archambault.
Oui, il a travaillé aussi, il a fait une création avec Joe Jack et John, il suit sa formation avec les Muses, Centre des arts de la scène. Donc moi, c'est là que je l'ai rencontré, puisque j'enseigne la danse aux Muses.
Mais j'avais une question pour toi. Mettons que moi, je veux aller dans ta troupe. Je dois faire une audition, j'imagine. Je dois faire une pratique devant toi, devant ta gang.
Pour danser chez Maïwenn et les Orteils, il n'y a pas d'audition comme telle. Je te dirais que je fonctionne par coup de cœur, dans le sens où les interprètes qui dansent pour notre compagnie, je les ai tous rencontrés aux Muses. Ça a été d'abord mes élèves, c'est encore mes élèves, et c'est là où je puise mon inspiration. C'est en les voyant travailler, en les voyant évoluer. Puis là, à un moment donné, il y a une chimie qui se crée, il y a une magie qui opère. Et
j'ai le goût de créer avec l'interprète.
Oui.
Tu rentres dans un processus,
oui.
Puis tu fais comme « Ah! »
Oui.
Tu m'inspires.
Oui.
On s'en va en travail.
Oui, vraiment. À un moment donné, il y a une épiphanie, puis je me dis « Mon Dieu, cette interprète-là... » Oui. Puis Anthony, le premier interprète vers qui je me suis dirigée, j'étais terrorisée, là. Ça fait 12 ans de ça. Puis Anthony, il est Asperger. Il est autiste Asperger. Donc, très difficile d'approche. Au niveau de la socialisation, très difficile. Au niveau de la démonstration de ses émotions.
Mais il est vibrant.
Oui.
En tout cas, dans le film de Louise, là, quand
oui,
il se met à chanter Niagara, là, c'est...
Mais oui.
On rentre dans un monde, là.
C'est un interprète accompli. Oui. Mais pour entrer en contact avec lui, « Anthony, j'aimerais ça danser avec toi. » Puis il n'y avait pas de compagnie à ce moment-là. J'avais juste une commande d'œuvre pour la Biennale de Gigue contemporaine, prévue pour 2009. Puis on m'avait commandé une œuvre de 9 minutes. Puis je me dis, il me semble que je ferais ça avec Anthony, ça serait génial. Puis il m'a dit non. il m'a carrément dit non. OK, là, qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là, my God? Il a vraiment fallu que je le travaille pour finalement dire, ben let's go, essaye.
Oui.
Puis finalement, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. Puis ça a été le début de Maïwenn et les Orteils. Je ne le savais pas encore, mais c'est là que...
C'est la genèse.
Oui, c'est vraiment là. Puis après, je suis allée chercher
Gabriel. Parce qu'avant, tu étais professeur à Muse, mais avant, ton parcours d'interprète...
C'est ça, j'étais interprète. Donc, j'avais touché un peu à la création. Puis quand tu es enseignante, c'est sûr, tu crées un peu là, des enchaînements chorégraphiques ou des exercices. Mais comme tel, là, c'était vraiment ma première commande d'œuvre. C'est avec Anthony que ça s'est passé. Puis ensuite, je suis allée chercher Gabriel Marion Rivard pour la suite, qui est encore avec nous. Ensuite, Roxane Charest-Landry, qui est encore avec nous. Puis là, ça fait juste grandir.
Grandir.
Oui.
T'as-tu une question, Lucie?
Oui. Dis-moi, qu'est-ce que pour toi l'art inclusif?
L'art inclusif...
C'est une grande question, hein?
C'est une grande question. J'aime bien parler de démocratisation de l'art dans le sens l'art accessible pour tous, que tout le monde puisse y avoir accès, mais que tout le monde puisse aussi le pratiquer, mais que tout le monde puisse aussi avoir la possibilité de développer une pratique professionnelle en art, que ce soit, peu importe la forme d'art.
J'aime beaucoup le fait que tu insistes sur le professionnel.
Oui.
Hein? C'est important.
Oui. Il développe ce calibre-là, il développe ce niveau-là. C'est des bêtes de scène, là, mes interprètes. Ils se souviennent beaucoup plus des chorégraphies que moi. Sur scène, moi, j'ai des bulles qui vont me passer, j'oublie des trucs. trucs. Eux, jamais. C'est extrêmement rare.
Le pendule.
Ah oui, métronome. Vraiment, c'est ça. Donc, pour moi, l'inclusion, c'est plus... C'est très large. Puis ouais. Mais c'est aussi d'avoir cette idée-là que ça peut devenir leur métier, en oui. fait. Hein? Puis qu'ils peuvent en vivre de ce métier-là. Parce qu'en termes de loisirs, théâtre, arts visuels, danse, il y en a une certaine accessibilité. Puis c'est super, c'est nécessaire.
Tout à fait.
L'aspect loisir.
Oui.
Mais quand on parle d'un calibre professionnel, puis vraiment de développer une pratique professionnelle, puis d'exercer un métier, c'est là où faut continuer de faire avancer les choses.
Exactement.
Pourquoi as-tu décidé d'enseigner à des gens qui sont différents, qui ont des besoins intellectuels?
Bonne question. Je pense que la différence a toujours fait partie de mon parcours. En fait, ma mère, qui est maintenant retraitée, était éducatrice spécialisée, donc j'ai vraiment baigné là-dedans depuis tout petite.
Depuis l'enfance.
Ouais, vraiment. Puis on était famille d'accueil quand j'étais tout petite pendant une dizaine d'années pour deux personnes qui vivent avec la trisomie 21.
OK. Donc, alors, c'était... t'étais déjà sensible à
ben,
ça.
Ben oui, c'est ça.
Ouais, c'était ça fait partie de ton quotidien.
Ben oui, c'était le quotidien, c'était la vie de famille. C'était avec ces deux... jeune fille-là, qui était pratiquement nos sœurs rendues là, c'est
ça.
Oui,
bien sûr.
Ouais. Puis après, ben, je me suis trouvée à travailler dans un camp de jour avec des enfants, des adolescents différents. Puis c'est un organisme pour qui je reste engagée encore, pour qui je travaille. Donc finalement, quand j'ai été...
Ça allait de soi.
Oui, c'est quand comme... j'ai été invitée par les Muses, c'était vraiment une super belle nouvelle de pouvoir allier la danse à cette différence-là finalement.
Exact. Oui.
Est-ce que tu dansais quand, lorsque tu étais jeune?
Oui, j'ai commencé à faire mes premiers cours de danse. J'avais 9 ans, puis à 10 ans, j'étais déjà l'assistante de mon prof, puis je passais déjà tous mes samedis complets, mes samedis, mes dimanches. Wow. Ouais, au studio de danse. C'était déjà ça.
Ben, merci.
On a un spectacle qui s'appelle Avec pas de cœur, oui. qui a été diffusé en 2016 pour la première fois, qui traite en fait de tout ce qui touche à l'intimité, la sexualité, les relations amoureuses chez les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou différents handicaps, qui va soit les empêcher de pouvoir s'épanouir de cette façon-là. Donc, on a, avec les interprètes, choisi d'aborder les nombreuses problématiques, frustrations, déchirements, déceptions vécues en lien avec tout ça.
Mais c'est pour ça que le travail de création est là pour brasser en répétition. Il y a sûrement des moments où les interprètes, ils vivent des choses. Et là, t'arrives à jongler avec ça. Comment tu fais pour ramasser ça? La ligne est mince, des fois.
Oui, la ligne est très mince. Puis cette vulnérabilité-là, on la sent...
Elle est palpable.
Ah oui, pas tout le temps, parce que quand on rentre dans un processus de création, là, on parle d'un an et demi environ de travail, on parle de plusieurs heures de travail, plusieurs heures en studio. Puis pour une personne qui n'est pas neurotypique, qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, on va, disons qu'ils vont frapper leur mur un peu plus vite, donc faut s'adapter au niveau du rythme. À un moment donné, on ne peut pas trop charger d'informations, il faut prendre des pauses. C'est pour ça que rarement on va faire des semaines de 5 jours consécutifs.
C'est beaucoup trop.
Ouais. Faut laisser le temps à la matière de...
Puis même les acteurs, déposer le travail.
Même nous, on trouve ça difficile, exactement, c'est ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime. Puis bon, tantôt, j'entendais, je vous écoutais discuter tous les deux, les erreurs, c'est le fun quand il y a des erreurs qui arrivent.
Oui.
Je travaille à peu près juste avec ça.
Bien, c'est l'humanité, qui ressort.
Oui, je travaille...
C'est la beauté, c'est la fragilité, c'est le déséquilibre.
Oui.
C'est là que naît la vérité.
Exact, puis je trouve ça fantastique. Quand je rentre en studio, quand on arrive en studio de répétition, pas que je pars de zéro, là, j'ai mon idée.
Oui.
Puis souvent, on a fait plusieurs rencontres préalables pour lancer les idées, tout ça, mettre nos tripes sur la table là, pour voir dans quelle direction on va partir, puis aussi voir dans quelle direction les interprètes sont à l'aise d'aller. Mais je ne crée pas de matériel ou peu de matériel en amont. C'est vraiment en studio que ça va se passer. Puis ça s'est produit pendant une répétition où est-ce que j'avais demandé à Roxane, interprète pour Maïwenn et les orteils, dans la création avec pas de cœur. Elle avait une tâche à faire avec Anthony, puis elle était très intimidée de travailler avec Anthony. C'était nouveau pour elle, puis Anthony est très intimidant quand tu le connais pas beaucoup. Puis elle a fait une crise de panique durant la répétition. Fait qu'on a dû arrêter pour qu'elle prenne le temps de revenir, puis on l'a aidée. Puis quand elle a été plus calme, on a choisi de recréer, je mets des guillemets.
Recréer ce
oui,
moment-là.
Ce moment-là où
qui était chargé en émotions, qui était vif.
Exactement, oui. Puis où on a eu le réflexe d'aller vers elle pour l'aider dans ce moment de vulnérabilité, justement. Et c'est devenu une section qu'on a appelée la section des sauvetages,
wow.
où comment les uns et les autres, on va s'entraider, on va s'appuyer... quand il se produit des moments où on se sent fragile, où on se sent attaqué, comme tu le disais, Lucie.
Alors, Maïwan, t'es un peu comme une âme, une lanterne, t'éveilles, t'es comme le centre de cette création-là qui est tout le temps en ébullition. T'es comme une matière première tellement vivante, c'est comme un geyser qui va sortir à quelque part des fois, non? Mais j'entends ça, on dirait que c'est ça qui me vient à l'idée, l'image.
Ben oui, j'adhère à cette image de la lanterne, c'est beau.
Oui. Bienveillance.
Oui.
T'avais-tu une autre question, Lucie?
Oui. Il y a encore bien peu de compagnies de troupes qui sont ouvertes à l'inclusion et à la participation d'artistes vivant avec une déficience intellectuelle ou un handicap physique, voire même sensoriel. Crois-tu que les choses changent? Peut-on les faire changer plus rapidement, d'après toi?
Je pense que les gens sont prêts à ce que ça change, mais probablement que les gens, les créateurs, les chorégraphes, les metteurs en scène ne sont pas au courant, ne voient pas suffisamment ces artistes-là, qui ne sont pas suffisamment mis de l'avant. Et je pense que les Muses, le Centre des arts de la scène, contribuent énormément à les mettre de l'avant.
Au rayonnement.
Au rayonnement, exactement. Donc, il y a vraiment un grand souci là, d'aller chercher des créateurs, des pédagogues, des metteurs en scène de l'extérieur pour soit des classes de maîtres, soit des stages. Il y a beaucoup d'initiatives là, qui se passent du côté des Muses qui rêvent de ça depuis longtemps, mais qui n'avaient pas encore les moyens de leurs ambitions. Et là, on sent que les conseils des arts bougent un peu plus pour soutenir ces initiatives-là.
Ah, c'est agréable, ça.
Oui, on le voit. Et du côté de Maïwan et les orteils, le prochain projet de création vers lequel on va s'orienter, c'est un projet de vidéodance où j'ai sollicité des chorégraphes de l'extérieur pour venir chorégraphier sur des interprètes qui travaillent déjà avec la compagnie, un peu avec cette idée-là de décloisonnement.
Puis est-ce que vous partez en tournée? Comment ça se passe? Oui?
On a des calendriers de fou. On est tellement occupés, ça n'a pas de bon sens.
Wow!
Ah oui, puis là, des fois, il faut concilier l'horaire de Gabriel qui est sur d'autres productions en même temps, l'horaire de tournage de Jean-François en même temps que l'horaire de Stéphanie qui travaille actuellement avec Joe, Jack et John. C'est pas simple,
oh non,
ces artistes-là.
Oui,
ben juste en 2019, tu vois, on a fait au printemps une tournée dans l'Est du Québec. Donc, on s'est rendu jusqu'aux îles de la Madeleine en passant par Mont-Laurier, Sainte-Thérèse. Bon, on a fait plus d'une douzaine de représentations. Puis là, à la fin de l'automne, on était en Europe, en France puis en Suisse.
Est-ce que toi, tu pars seule avec tes interprètes ou...
Non.
Non? Les familles suivent?
Oh non! Les familles ne suivent pas,
non.
Mais je pars dans ce sens-là, oui, mais j'ai une super équipe autour de moi. Donc, j'ai directeur de tournée, j'ai une accompagnatrice, répétitrice, coach de voix. Notre technicien qui nous suit, on a une super belle équipe.
Une famille qui part
oui,
avec eux,
dans
qui est sécurisant.
Sens-là,
puis...
Oui, c'est ça, exactement. Donc, oui, puis on prend en charge tous les petits aspects que pour nous, neurotypiques, qu'on prendrait pour acquis.
Hein? Okay.
Qu'est-ce que tu vas mettre dans tes bagages?
C'est compliqué faire les bagages?
Il y a une petite supervision. Donc,
okay.
Oui, c'est ça. Disons que notre cahier de tournée est très, 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 très élaboré, très détaillé.
Okay.
Puis on prend le temps de faire une rencontre une semaine avant le départ là, pour être sûr que tout le monde est en mesure de bien faire ses bagages.
Ah oui, mais c'est toujours compliqué
la
faire les bagages.
La planification, bien oui,
vraiment.
C'est sûr, c'est
vraiment.
Sûr.
T'avais-tu une autre petite question?
Oui.
Hey, on te tient, hein?
Allez-y.
Ouvre tes grandes oreilles.
Je suis prête.
Que dirais-tu aux jeunes et aux familles pour cultiver l'art, pour qu'ils viennent apprendre à faire de l'art, comme la danse, le théâtre, le chant? Qu'est-ce que tu leur dirais?
Je pense que c'est une question d'ouverture d'esprit à la base, une curiosité qui doit être éveillée. Puis nous, on a la chance de donner, je dirais, près d'une centaine d'ateliers dans les écoles avec la compagnie, avec les interprètes depuis 5 ans.
Wow!
Ouais, c'est un projet qui est reconduit depuis 5 ans dans les écoles primaires défavorisées de Montréal. Donc, on s'adresse peu aux parents, là, tu parles de famille, mais on s'adresse beaucoup aux enfants. Et c'est chaque année, c'est quand je parle d'une centaine d'ateliers, c'est qu'on voit les élèves sur 5 ateliers différents, en plus de 2 représentations de spectacles différents de la compagnie. Donc, à travers ces activités-là, à travers ces ateliers-là, et le fait qu'ils se déplacent pour venir voir de la danse, bien, j'espère qu'en les exposant ainsi à l'art et en étant en contact, en développant une certaine proximité, hein, après juste le dernier atelier, là, ils nous sautent dans les bras. Gabriel, Anthony, ils veulent des autographes.
Mais non, mais c'est ça, exactement.
Oui, c'est ça.
Il y a l'accessibilité.
L'accessibilité.
Exactement. Puis c'est comme ça qu'on devient, oui, lorsqu'on va au théâtre quand, oui, on est gamin.
Oui.
Après ça, quand on va rentrer dans l'adolescence, l'âge adulte, on va avoir 25-30 $. On va pouvoir l'investir dans l'art parce qu'on a vu plus jeune.
Exact.
C'est développer la curiosité,
oui,
et l'éducation.
C'est ça. Donc, je pense que de cette façon-là, on doit contribuer à éveiller la curiosité, puis par les enseignants aussi qui nous accueillent dans leur classe, qui nous suivent tout au long du projet, tu sais, qui voient les élèves accrochés après nous en train de pleurer parce qu'ils savent que c'est le dernier atelier qu'on ne se reverra plus. Bien là, j'ose espérer que ça laisse
une trace,
que ça laisse dans leur mémoire un souvenir qui va leur donner envie d'aller voir d'autres choses, de continuer d'aller voir de la danse ou de consommer de l'art de façon plus générale.
Alors, merci, Maïwenn Desbois, de ta visite.
Mais merci beaucoup.
Merci, merci.
Au revoir.
Bye.
Au revoir. Alors voilà, Lucie, ce qui complète notre premier balado, Apprendre à se connaître. Alors, n'hésitez pas, tout le monde, à partager sur vos réseaux sociaux. Et nous, on se dit...
À la prochaine. Thank you.